Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans la révolution féministe. Je vous propose de continuer à battre en brèche les préjugés et les stéréotypes qui oppressent les femmes musulmanes, qui sont régulièrement en France au cœur de débats enflammés, passionnés, où on leur dénie souvent la parole et on les assimile, les réduit à des êtres aliénés, soumises, victimes de leur religion, l'islam. Deux livres paraissent en ce mois d'avril pour briser ces stéréotypes qui sont particulièrement bien ancrés dans notre pays. Le premier, c'est « Musulmane du monde » qui paraît aux éditions Face Cachée. Et le second, « À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ?» C'est aux éditions Les Fameuses. « Musulmane du monde » retrace les parcours de 30 femmes musulmanes inspirantes qui ont refusé de s'imposer des barrières à cause de leur religion, de leur genre ou de leur milieu social en allant là où on ne les attendait pas. Des femmes d'hier et d'aujourd'hui à travers la planète, du Maroc au Yémen en passant par la Turquie, la Chine, les États-Unis, la France. Il y a là Ilhan Omar, une des premières femmes musulmanes élues au Congrès américain, Sarah Ouramoun, la boxeuse la plus médaillée de France, Lalane Soumer, figure de la résistance contre l'occupation française en Algérie, ou encore la diva égyptienne Oum Kalsoum. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ? Vient contrer les discours sexistes et misogynes qui sont légion dans certaines mosquées. C'est le livre qui challenge les imams, les institutions religieuses de l'islam, en nous contant l'histoire de 15 femmes qui ont contribué à travers les âges à l'essor de l'islam, qui est aujourd'hui en France la deuxième religion. On va partir à la rencontre de ces femmes avec 4 femmes qui démontrent qu'islam et féminisme ne sont pas incompatibles. Élise Saint-Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous travaillez beaucoup sur les questions de féminisme et les religions. Oui. Vous êtes à l'origine de Musulmane du Monde, dont vous signez les textes. Et vous, El Kaïmani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la dessinatrice, l'illustratrice de ce livre.
Exactement.
Vous êtes de métier architecte paysagiste.
C'est ça.
Avec nous également, par visioconférence, en direct d'Abidjan, Samia Orozman. Bonjour Samia.
Bonjour.
Vous êtes une humoriste et une comédienne française. Vous êtes actuellement en tournée en Afrique, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous avez signé la préface de Musulmane du Monde. Et puis, on a également avec nous, depuis Paris, Atika Trabelsi. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de La Lab, une association féministe et antiraciste née en 2016, qui vise à faire entendre les voix des femmes musulmanes et à défendre leurs droits, car elles sont au cœur d'oppressions sexistes, racistes, islamophobes. La Lab, c'est la contraction de Lella, qui signifie madame en arabe, et de laboratoire. C'est une communauté qui ne cesse de s'agrandir. C'est un magazine en ligne, des ateliers de parole. Festival féministe également, qui s'est déroulé très récemment et dont le titre était cette année « Les femmes musulmanes de la puissance au pouvoir collectif ». Vous êtes l'autrice avec la dessinatrice Samah Harounouni de ce livre qui va donner de l'urticaire à bien des imams. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ? Alors, toutes les quatre, toutes les trois, puisque Samia a signé la préface, racontez-nous la genèse de ces livres. Je ne l'ai pas dit, Élise et El Kaïmani, mais vous, votre livre, il est réservé aux enfants, aux adolescents, on le trouve dans les rayons jeunesse. C'est l'occasion de rappeler qu'on lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge.
Oui, et puis je pense que dans la littérature jeunesse, il y a souvent des livres avec des portraits de femmes inspirantes, mais j'avais constaté qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de femmes musulmanes, mis à part Malala, qui est très connue. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant que les adolescents puissent avoir aussi des modèles qui leur ressemblent, en fait.
Et vous, qu'est-ce qui vous a séduit, El Kaïmani, dans ce projet, quand Élise est venue vous proposer d'illustrer et de dessiner ces femmes ?
Alors, c'est très particulier parce que, en fait, moi, ça correspondait pile, en fait, au moment où j'ai décidé de me lancer en tant qu'illustratrice. Ça faisait 6 mois que j'avais pris cette décision. Et justement, c'était une décision à cause, justement, du manque de représentation dans les livres jeunesse des femmes musulmanes, mais pas que aussi, de la diversité et la pluralité française. Je trouvais qu'on avait toujours des rôles très stéréotypés pour les minorités dans les livres français et que souvent, on avait besoin d'avoir des livres traduits des États-Unis ou de l'Angleterre pour trouver de la représentation. Et ça fait partie donc, des raisons qui m'ont poussée à bifurquer de métier. Et du coup, quand Élise m'a proposé le projet, j'ai tout de suite adhéré et j'ai plongé dans les textes.
Alors Samia, vous avez préfacé Musulmane du Monde. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre ? J'ai vu que vous disiez que vous aviez souffert dans l'enfance de ne pas avoir eu un tel livre de chevet.
Exactement. J'aurais rêvé en fait d'avoir des exemples de femmes musulmanes qui ont réussi et avoir l'impression que tout était possible en fait. Et je me suis rendu compte par moi-même seulement que les barrières étaient dans nos têtes, qu'on se limitait à des choses parce que c'est ce que la société nous transmettait en réalité comme image. Et donc j'ai dû faire mon parcours toute seule, et j'aurais bien aimé avoir ces exemples de femmes inspirantes.
Attika, vous vous êtes engagée dans ce projet pour les mêmes raisons, visibiliser des femmes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et casser ce stéréotype qui voudrait dire que les femmes n'ont pas leur place en islam.
Exactement, c'est pour ces mêmes raisons. Et après, moi, il y a effectivement une raison supplémentaire qui m'a poussée à aller plus loin, on va dire, dans la réflexion que j'avais menée jusqu'à la grâce à la LAB. C'était vraiment aussi de me dire, j'étais dans une période où je me questionnais beaucoup sur ma foi et ma spiritualité, et notamment au sein de ma communauté de foi. Parfois, j'avais le sentiment de ne pas être représentée ni même respectée. Et du coup, j'ai ressenti ce besoin de mener un travail de recherche à la fois dans un premier temps pour une quête personnelle spirituelle, et puis je me suis finalement dit aussi que ce travail de recherche, de mettre toutes ces femmes en avant, c'était un moyen finalement de revendiquer plus d'égalité, d'équité et de justice au sein de ma communauté de foi à l'égard des femmes.
Comment vous avez fait cette sélection ? Vous, le vôtre, Attika, c'est 15 femmes. Musulmane du Monde, c'est 30 femmes. C'est vous qui avez fait votre sélection toute seule ou vous l'avez faite avec El Kaimani ?
Alors, c'est vrai que je l'ai fait toute seule. Mais ensuite, après, j'ai demandé aussi son avis à El Kaimani, si les femmes aussi lui parlaient. Après, ça a été très difficile parce qu'il y a beaucoup de femmes qui mériteraient de figurer dans ce livre. Mais j'ai vraiment pris comme critère un maximum de femmes qui viennent de pays très différents. Parce que pour moi, c'était vraiment très important de montrer la diversité des femmes musulmanes. Parce que souvent, on parle de la femme musulmane, mais en fait, on peut être kurde, européenne, arabe, ouïghour. Donc pour moi, c'était important de montrer des femmes qui portent le voile, d'autres qui ne le portent pas. Mettre aussi des femmes réfugiées, handicapées. Enfin, vraiment montrer toute la diversité des femmes musulmanes. Donc ça, c'était un des critères. Et aussi, voilà, des femmes du passé, un peu aussi plus contemporaines, des jeunes aussi. Donc, en fait, j'ai dû faire un choix. C'était difficile, mais faire un choix par rapport à ça. Et puis aussi, par rapport au domaine de compétences, parce que je voulais vraiment aussi qu'il y ait des femmes scientifiques, militantes, sportives, pour qu'on voit tout un panel, enfin, que les adolescents puissent se dire « j'ai plein de possibilités, en fait ».
Ce livre, c'est un peu aussi le fruit d'une lutte contre vos propres stéréotypes, parce que j'ai compris en lisant votre texte introductif que vous-même, vous aviez eu beaucoup de stéréotypes à l'égard des femmes musulmanes.
Alors, beaucoup, je sais pas, mais c'est vrai que à 19 ans, j'ai rencontré pour la première fois une femme musulmane qui portait le voile. Avant, j'avais jamais parlé avec une femme qui portait le voile, et je connaissais pas grand-chose de l'islam non plus. Donc, du coup, c'est vrai que oui, je pense que j'avais pas mal d'idées reçues. Et voilà, et j'espère qu'il y aura aussi des non-musulmans qui pourraient lire ce livre et qui vont peut-être oublier pendant 5 minutes qu'elles portent le voile, qu'elles sont musulmanes, qui vont s'intéresser vraiment à qui elles sont aussi.
Oui, bien sûr, c'est un livre qui ne s'adresse pas spécifiquement aux musulmans, aux musulmanes. Comment on fait justement pour ne pas s'enfermer dans quelque chose qui pourrait apparaître comme communautariste ?
Je pense que déjà, allier le texte et le dessin, c'est très important. Nous, on a vraiment travaillé dans ce sens-là. Elles sont musulmanes, c'est une composante de leur personnalité, de leur identité, mais elles ne sont pas que des femmes musulmanes. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi voulu montrer à travers mes dessins et à travers tes textes, Élise, qu'en fait, elles sont pleines de diversité, en fait. Et donc, c'est pour ça que, justement, en fait, ce livre s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, âgés, enfants. N'importe qui peut prendre plaisir à parcourir ces portraits, je pense.
Et vous dites aussi combien parfois les stéréotypes peuvent se nicher jusque dans le crayon qu'on choisit, dans le coup de crayon. Aussi, vous avez beaucoup fait en sorte de ne pas succomber à des critères de beauté occidentaux. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, alors ça c'est assez particulier en fait, et ça fait partie aussi de mes combats en tant qu'illustratrice. C'est vraiment important en fait de représenter les gens tels qu'ils sont, de montrer la beauté des différentes peaux, couleurs des différentes carnations, de montrer aussi des femmes en mouvement, des femmes puissantes qui prennent de la place. Ça fait vraiment partie du concept en fait des portraits pour le livre.
Et veiller à ne pas les blanchir par le crayon qu'on choisit.
Oui, exactement. Parce que souvent, en fait, il y a beaucoup d'illustrateurs et illustratrices français, en fait, qui ne dessinent que des personnages blancs. Et au moment de dessiner quelqu'un d'autre, un personnage noir, par exemple, on se retrouve avec des personnages très, très clairs de peau ou dont les traits sont complètement européanisés. Et en fait, c'est tout simplement pas possible. Les enfants ont besoin d'avoir des livres avec des personnes qui leur ressemblent et où ils peuvent aussi se sentir tout simplement représentés, en fait.
Attika, vous, qu'est-ce qui vous a guidé dans la sélection de ces 15 femmes ?
Alors moi, c'est un peu particulier parce qu'il y a tout le parcours qui est en amont. Il y a déjà la lab qui m'a vraiment structurée et qui m'a donné une vision spécifique, qui a renforcé ce regard féministe qui est le mien, et notamment en l'accent davantage sur la place qu'occupent les femmes musulmanes et sur la nécessité du coup de faire entendre nos voix et de se réapproprier nos récits. Du coup, chez la Lab, j'ai été structurée par ces objectifs de créer une communauté de solidarité, créer de nouveaux récits et finalement aussi ouvrir une troisième voie, de dire on fait entendre nos voix, que ce soit à un niveau politique, que ce soit nous mettre au centre des luttes contre les discriminations à l'égard des femmes musulmanes. Finalement, je vis aussi ces difficultés au sein de ma communauté. Il va falloir qu'on y aille et qu'on assume, en fait. Qu'on assume et qu'on aille ouvrir cette brèche, ce que j'espère faire avec ce livre. Et l'idée, c'est de se dire, on va aller chercher 15 femmes qui ont été, pour le coup, contemporaines des premiers temps de l'islam, donc qui ont contribué au développement et à l'essor de l'islam, pour pouvoir utiliser leur histoire et se dire, si ces femmes, elles ont existé, si ces femmes, elles ont agi, si elles ont été reconnues, si toutes ces femmes ont été existées, elles viennent faire voler en éclats un petit peu tous les préjugés et stéréotypes auxquels on tente de nous assigner, que ce soit au sein de notre propre communauté de foi ou même au sein de notre société. Donc, moi, ma difficulté avec mon livre, c'est que ma plus grande peur, c'est qu'il soit instrumentalisé à des fins islamophobes, parce que je sais très bien que ça va ouvrir un débat. Et donc, c'est de dire, aujourd'hui, en tant que femme musulmane, on se réapproprie nos récits, que ce soit en intracommunautaire et aussi en extracommunautaire. Et peu importe la manière dont sont utilisés nos propos, on sait pourquoi on milite, et on sait qu'on milite pour plus d'équité, plus de justice pour les femmes musulmanes, ou peu importe où elles soient. Et donc, un peu comme Élise, je rentre dans cette même dynamique de chercher à être la plus inclusive possible en cherchant des femmes, des femmes diverses et plurielles pour montrer la pluralité des femmes musulmanes et rappeler qu'en tant que femmes musulmanes, nous ne sommes pas un bloc homogène et monolithique comme on aimerait le montrer médiatiquement parlant aujourd'hui.
Alors, on en a 30 plus 15, ça fait 45. On a 45 femmes. Si chacune, vous deviez en choisir une, quelle serait-elle ? Samia, vous qui avez préfacé, laquelle vous retiendrez de ces femmes qui paraissent dans Musulmanes du Monde ?
Pas forcément, moi, je choisirais l'artiste, Oum Kalthoum, qui, par sa voix, a arrivé à envoûter les gens.
Et vous, Elka Humani ?
Moi, je choisirais Fatima Jibrel, donc écologiste et militante, parce que c'est pour moi un beau message et une belle valeur de l'islam qui est universelle et qui peut se retrouver aujourd'hui dans les générations à venir.
Elle est somalienne et lauréate du prix Goldman pour l'environnement.
Exactement.
Moi, je choisirais Nour Inayat Khan, qui a été résistante en France, qui a été agent secret britannique. Elle était d'origine indienne et elle a vécu en France pendant plusieurs années. Et en fait, elle a été opératrice radio, donc résistante en France, et elle était musulmane. Et en fait, j'ai appris son existence qu'il y a un ou deux ans peut-être. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que il y a une école qui porte son nom à Suresnes en France. Mais c'est une femme dont on n'entend pas du tout parler. Elle est morte à 30 ans, elle a été exécutée. Et moi, je pense que c'est une femme qu'on devrait connaître en France parce qu'elle s'est quand même battue pour la France, pour l'Angleterre, pour la liberté en Europe. Et voilà, pour moi, elle devrait vraiment être connue.
Attika ?
Alors moi, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'on a dit, Élise et moi, c'est de se dire qu'il a fallu choisir. Ça veut dire qu'il en existe tellement que finalement, on est contraint de choisir. Franchement, j'étais tellement étonnée quand j'ai découvert toutes ces femmes, je me suis dit, waouh, va falloir en choisir 15, incroyable. Et si j'en avais une à choisir, elle est connue, mais pour moi, elle est à la jeunesse de mon projet, c'est Khadija. Khadija, qui était bien plus que l'épouse du prophète. On l'a réduit au rôle d'épouse du prophète, mais j'aimerais juste rappeler que Khadija, ça a été tellement plus, ça a été une businesswoman, elle a été une femme commerçante, mais d'une ampleur dont on n'imagine pas. On ne nous le dit pas non plus, mais pour Khadija, la liberté et l'indépendance n'étaient pas des vains mots. Elle a été mariée deux fois avant de se marier avec le prophète. Elle avait déjà 3 enfants lorsqu'elle s'est mariée avec lui. Je pourrais dire tellement de choses. Elle a fait la démarche de le demander en mariage et pas l'inverse. Elle a été aussi son premier soutien, la première femme convertie à l'islam. Et au-delà de ça, elle a été la mécène de l'islam, parce que la fortune qui a permis aux musulmans et musulmanes de survivre durant les embargos, c'est notamment la fortune de Khadija. Et ça, on oublie de le dire. Khadija, elle a été beaucoup, beaucoup plus que la simple épouse du prophète.
Vous disiez, Atika, comme il était important de combattre les oppressions à l'intérieur de la communauté de foi comme à l'extérieur, qu'on n'était pas épargné à l'intérieur de la communauté de foi par les oppressions. Vous en avez rencontré justement des oppressions tout au long de vos parcours au sein même de votre communauté de foi ?
Alors, moi, je vais parler pour mon cas personnel, mais moi, en fait, j'ai toujours dessiné et écrit depuis que je suis toute petite. Et je dirais que, je ne sais pas si on peut parler d'oppression, en fait, mais c'est vrai qu'une carrière artistique, ça n'a jamais été une possibilité, parce que, tout simplement, ce n'était pas assez stable. Et déjà, en fait, en tant que femme musulmane qui porte un foulard, je partais déjà avec beaucoup d'handicap. Et choisir une carrière artistique, en fait, c'est quelque chose qu'on m'a fortement déconseillé au sein de ma communauté.
Samia, vous, votre carrière d'humoriste, elle a plu à votre entourage, à vos parents ? Vous avez été encouragée ?
Non, mes parents ont eu du mal à accepter le fait que je veuille devenir comédienne. Je prenais des cours de théâtre en cachette. Je me suis inscrite au conservatoire sans même les concerter. Et en fait, il a fallu les convaincre. Et après, au sein de ma communauté, en l'occurrence la communauté musulmane, je me suis pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insultes et j'ai été beaucoup dénigrée à travers les réseaux sociaux ou autres. Parce que pour eux, c'était incompréhensible qu'une femme soit sur le devant de la scène. En fait, en tant que femme voilée, je devais être soumise. En fait, toute l'image que les médias occidentaux cherchent à envoyer de la femme musulmane, c'était entré dans leur tête à eux, qui normalement devraient connaître leur religion. Et donc, en fait, il aurait fallu que je sois soumise, la tête baissée, que je m'occupe de mon foyer, que je sois discrète. Pour eux, l'image de la femme musulmane, c'est ça. Et donc, souvent, j'ai ce que j'appelle la police du haram, la police de l'illicite, qui vient me donner des conseils sur les réseaux sociaux, sur ma manière de pratiquer ma foi. Donc
Et vous, Atika, cela fait écho ce que raconte Samia ?
Ça fait totalement écho, mais ça fait écho depuis mon engagement chez la Lab. Quand j'ai pris la parole publiquement sur des chaînes télévisées, j'ai eu à affronter le cyberharcèlement des islamophobes et le cyberharcèlement de la communauté musulmane qui m'a. Enfin, des deux côtés, je me suis retrouvée enfermée entre. Et emprisonné et je l'ai vu aussi après avec la Lab, constamment avec la Lab on le ressent, mais c'est pour ça que je le disais encore, il faut faire attention à l'instrumentalisation qu'il y a derrière. Tenir ce genre de discours ne doit pas et absolument pas servir à nourrir les discours islamophobes, parce qu'aujourd'hui c'est un tout autre mécanisme qui apparaît, c'est de se dire qu'en tant que femme musulmane on se réapproprie nos récits et nos voix dans n'importe quelle sphère de la société et y compris au sein de nos propres communautés.
Alors, il y a bientôt un an, justement, la Lab signait sur son blog de Mediapart un billet de blog intitulé « Santé mentale des femmes musulmanes, nous sommes épuisées ». Je cite un passage « Être une femme musulmane aujourd'hui en France, c'est porter sur ses épaules, dans son corps et dans sa tête, le poids d'une multitude d'oppressions violentes et continues qui produisent des effets sur chaque aspect de nos vies. C'est votre cas, vous êtes toutes les quatre épuisées ?
Moi, vraiment, je l'ai vraiment ressenti en fait dans ma chair à partir du moment où j'ai décidé de porter mon foulard, que j'étais plus la même personne. Parce qu'il faut savoir donc que moi, je suis en fait, j'ai plusieurs origines, mais des origines européennes et des origines africaines. Et avant que je porte le foulard, j'étais pas forcément soumise à des oppressions racistes ou même islamophobes. Et à partir du moment où j'ai fait ce choix, en fait, j'ai compris que ma vie a basculé. Et alors, j'ai pas eu de soucis pour avancer là où j'avais envie d'aller, que ce soit dans mes études, dans le travail, peu importe. J'ai réussi à ouvrir toutes les portes. Mais vraiment, à la fin de la semaine, on est très fatigué. On est très, très, très fatigué. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de dessiner, de nous représenter, en fait, de nous célébrer à travers le dessin. Parce que vraiment, c'est un bel échappatoire pour contrer, en fait, toutes ces fatigues qui nous accablent.
Et vous, Élise ?
Comme je ne porte pas le voile, c'est vrai que, du coup, j'ai moins de problèmes, on va dire, moins de soucis. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a fatiguée, c'est plus en tant que journaliste, parce que j'ai écrit souvent sur des polémiques autour de l'islamophobie ou des femmes. Et en fait, c'est fatigant. On passe de l'affaire Décathlon à ensuite Ménel, à ensuite Marianne Pouchetou. Il y a eu tellement d'histoires qu'en fait, ça n'en finit jamais. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu fatigant, déprimant de voir que on se focalise toujours et toujours sur le voile et on montre toujours les mêmes polémiques. Et c'est vrai que c'est fatigant.
On va regarder justement un sketch de Samia.
Bon, je vous avoue que mon cousin, il y avait autre chose qui lui faisait peur. Mais je pense que ce soir, je peux en parler sans avoir peur. De toute façon, on a fermé les portes à clé. il avait peur que ce qui pose problème, c'est que... Ce que je porte sur la tête, c'est un foulard de femme musulmane. Personne n'a peur? Alors pourquoi la télé, ça marche? Non, parce que moi, le jour où j'ai mis un bout de tissu sur ma tête, au départ, je l'ai porté de manière un peu plus traditionnelle. Mais je vous avoue que j'ai eu l'impression d'être entrée dans une autre dimension. J'ai eu droit à des réflexions que j'aurais jamais imaginées, genre « Oh, Samia, tu portes le voile !» Mince, qui c'est qui me l'a mis? J'avais même pas capté.
Genre, non mais attends, mais pourquoi t'as mis ça sur ta tête?
Je t'avoue qu'au début, j'avais essayé sur les pieds. Mais bon, c'était un peu galère pour marcher.
Alors non mais attends, mais t'as pas chaud comme ça? Franchement, avec ce soleil, moi je sais pas comment tu fais, hein. Vraiment, j'ai chaud pour toi.
Ok, c'est vrai que les bédouins dans le désert, ils se promènent en short. C'est comme la dernière fois, je faisais la queue au distributeur pour aller chercher de l'argent. Et derrière moi, j'entends deux vieilles femmes façon les vampes. Elles cherchent à se servir d'une carte bancaire.
Oui, madame, et accessoirement, je comprends même le français.
Non, mais pour être sincère avec vous, celle qui me fatigue le plus, c'est celle qui vient de te voir comme si on leur avait confié une mission divine. Te sauver la vie.
Samia, on est en France ici, tu es dans un pays libre. Toi, comprendre. Samia, tu peux me parler, j'ai fait du social, je suis de gauche. Je connais ton histoire, j'ai lu Jamais sans ma fille. Samia, je sais qu'on t'a forcé à porter ce voile. Non mais révolte-toi, appelle les associations féministes, fonce quoi.
Alors moi, pour leur faire croire qu'elles sont utiles, je fais la malheureuse, genre...
Oui, passe. Tu as sûrement dû voir mon père, mon frère et mon mari cachés derrière le poteau. Toute la journée, ils me suivent pour voir si je l'enlève ou non.
Hé, hey, faut arrêter. Moi, je suis une fille super libre. J'ai le droit de faire tout ce que je veux à l'intérieur de ma cuisine.
Et c'est légende sur les femmes voilées. Tout le monde est persuadé que derrière chaque femme voilée se cache un grand frère prêt à bondir sur le premier garçon qui oserait s'approcher de sa sœur. Hé, faut arrêter les clichés. Moi, mon frère, il attend pas que les garçons ils s'approchent avant d'aller les taper. Voilà la seule chose que je voulais dire en rapport avec cette histoire de voile. C'est que peut-être que quand les gens enlèveront le voile qu'ils ont devant les yeux, bah, ils verront plus celui qui est sur la tête.
Alors Samia, j'ai constaté qu'en préparant l'émission que vous étiez constamment présentée dans la presse française, en particulier comme la comique voilée, l'humoriste musulmane. Comment vous le vivez, cela vous heurte?
Bah, en fait, je suis un foulard sur pattes, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. C'est juste ça, ma personnalité. Je suis un voile avec des pieds, c'est tout. C'est usant. Et quand même Ardisson, qui est quand même un grand journaliste, quand même, m'annonce comme l'humoriste voilé en dessous de l'écran, et que moi, je me rends compte qu'une fois que je regarde l'émission, là, je bug, et je me dis, mais quand il présente Gad Elmaleh, il ne dit pas l'humoriste juif. Quand il présente Kavanaugh, il ne dit pas l'humoriste noir qui a des locks. Il y a un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de limiter les gens à leur apparence et passer à autre chose. Et je trouve ça vraiment dommage qu'en France, on en soit encore là. Je veux dire, la France est plurielle, la France est diverse. Et il faut un jour qu'elle décide d'accepter tous ses enfants, quels qu'ils soient, et arrêter de stigmatiser et d'enfermer les gens dans des stéréotypes.
Et vous racontiez tout à l'heure combien ça avait été difficile de monter sur scène, de le faire acceptée, y compris au sein de votre propre famille, parce que vous êtes femme. Mais justement, on tolère difficilement qu'une femme fasse rire, mais alors, quand elle est musulmane et voilée, votre sketch le raconte bien, ça paraît complètement impossible, improbable.
J'étais une bête de foire, en fait. C'était pas possible. Je pouvais pas être musulmane, voilée et monter sur scène. C'est un contresens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont contactée dans ce sens-là. J'ai participé à énormément d'émissions parce qu'on me disait, mais en fait, c'est tout le contraire de ce qu'on imagine de la femme voilée. Mais les gars, il y a pas que moi, en fait. La femme voilée, c'est pas juste une façon d'être. C'est pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre, quoi. C'est parce que j'ai un foulard sur la tête, donc je dois être forcément comme ci ou comme ça. Les femmes, à la base, sont déjà multiples et très complexes. Comment est-ce qu'on veut qu'une femme qui porte un foulard, elle puisse être comme toutes les femmes qui portent des foulards ? Enfin, je comprends pas qu'on classe les gens pour un bout de tissu qu'on a sur la tête. C'est comme si je disais, ben voilà, toutes les filles qui ont une couleur rousse de cheveux, eh ben, elles sont comme ça. Ça n'a pas de sens, on est d'accord.
Attika, quand vous regardez le sketch de Samia...
Bah, concrètement, j'ai envie de dire ça. C'est pour toutes ces raisons que j'ai rejoint l'équipe de la Lab. Et c'est pour ces raisons qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fonde une association pour faire entendre les voix et défendre notamment les droits des femmes musulmanes qui sont aujourd'hui clairement au cœur d'oppressions qui sont sexistes, racistes et islamophobes. Donc pour nous, c'était vraiment de se dire, il faut qu'on la crée, cette communauté de solidarité, il faut qu'on soit là entre nous, qu'on se soigne, qu'on se retrouve, et qu'entre femmes musulmanes, finalement, on puisse créer des récits nouveaux qui vont nous permettre de nous réapproprier c'est notre narration, et puis de définir nos parcours de vie comme on l'entend, et de faire aussi tout ce travail politique et de plaidoyer auprès de la société dans laquelle on vit, pour pouvoir, en tant que femme, se sentir enfin respectée et sentir que notre dignité, finalement, est respectée également.
Alors, pourquoi les femmes qui portent le voile sont si peu nombreuses dans ces débats sur le voile ? Pourquoi on les voit quasiment jamais ? Et je voudrais qu'on regarde un extrait qui vous concerne, Attika.
Tout d'abord, en fait, j'aimerais commencer en disant que lorsque j'entends ce genre de discours, je me sens profondément blessée. Je dirais même que, en fait, je me sens humiliée. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, Monsieur Valls, mais en tant que représentant de l'État, vous légitimez des discours qui engendrent des violences à mon égard. C'est une somme de petites agressions et ça devient fatigant, notamment lorsque j'arrive devant une banque et que l'on m'explique que je ne peux pas y rentrer en raison de mon voile, ou lorsque je suis en entretien et en concours, l'on me demande de manière récurrente ce à quoi j'aspire avec ce voile. Vous voyez, j'aimerais que mon histoire soit unique, mais qu'il s'agisse de chiffres, d'associations terrain ou d'études sociologiques, les expériences semblables à la mienne se multiplient. Et je pense notamment aux membres de mon association, comme Maïssa, à qui un professeur à l'université a demandé de quitter l'amphithéâtre, ou à Awa et Farah, à qui on a expliqué qu'elle pourrait pas devenir médecin ou journaliste. Ayez conscience, monsieur, que des rêves sont brisés et en fait des talents français sont gâchés. J'ai créé mon entreprise, comme il a été dit, et c'est en partie pour ne plus avoir ou pour ne pas avoir une fois de plus à essuyer ces violences. Parce que...
On va laisser Manuel Valls répondre sur ce point-là.
Allez-y, si je peux me permettre de terminer, oui, je vous remercie. Parce que vous voyez, face à ces discriminations, en fait, on ne se contente pas de baisser les bras. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour représenter effectivement l'association La Lab, pour montrer que les voix des femmes musulmanes sont plurielles. Et en réalité, on a une ambition bien plus grande chez La Lab. C'est de faire en sorte que les femmes puissent librement choisir ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent être. Et donc la question que j'ai à vous poser, elle va en ce sens. Dites-moi, quelle société vous voulez construire ? Est-ce une société où l'on impose aux femmes ou une société où les femmes choisissent ? Nous, on a choisi. Nous, on se bat au quotidien pour que les femmes puissent marcher dans la rue la tête haute, sans craindre d'être jugées, discriminées ou violentées en raison de leur genre, de leur physique, de leur orientation sexuelle, mais aussi de leur origine et de leur appartenance religieuse.
Ah, donc oui, effectivement, ça remonte maintenant, ça va faire quelques années. Mais à la suite, pourquoi on voit si peu les femmes musulmanes sur les plateaux ? Pour plusieurs raisons. Parce qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes sont victimes d'un silence paradoxal. Déjà, effectivement, on parle tout le temps d'elles, mais on leur donne très peu la parole. Et quand on leur donne la parole, c'est pour leur donner la parole dans des contextes justes ou déraisonnés. En fait, il n'y a plus de raison. On est dans des contextes où on ne peut pas s'exprimer concrètement et où les femmes derrière, finalement, se retrouvent en danger. Juste pour vous donner une information, à la suite de cette intervention, j'ai perdu mon travail un mois après. Et puis j'ai été victime d'un cyberharcèlement juste incroyable.
Le coût social, médiatique, psychologique est immense, en fait, dès qu'une femme musulmane ose prendre la parole et s'exprimer.
Immense, et je pense qu'on ne le mesure pas assez. Je pense que si on interroge toute femme musulmane qui a eu l'occasion de se présenter sur un plateau télé durant ces trois dernières années, je pense qu'on a tous eu à subir du cyberharcèlement et une pression sociale qui est juste très complexe. Du coup, on se retrouve à la fois mise en difficulté, ça peut être dans des domaines professionnels, enfin, sur le cadre professionnel, personnel, psychologique, émotionnel, tout ça à la fois. Mais j'ai quand même grâce à cet épisode, bah finalement, ça m'a renforcé dans ma conviction. Et grâce à ça, avec la Lab, on a pu imaginer, je pense, une nouvelle voie pour la défense des droits des femmes musulmanes, en donnant aux femmes musulmanes les moyens d'être actrices actives de l'amélioration de leur situation, d'abord dans un niveau individuel, ce qui leur permet effectivement, dans un second temps, bah, de se réapproprier leur propre récit et d'influencer la manière dont les institutions traitent les discriminations dont nous sommes victimes. Donc c'est aussi se dire j'ai eu à passer par là, ça a été très difficile, mais finalement cette difficulté dans laquelle je me suis retrouvée nous a permis aujourd'hui avec toute l'équipe de la Lab de bien prendre conscience de ça et d'imaginer les outils et les ressources en face. Alors il y a un énorme travail encore à faire et je comprends tout à fait que en tant que femme musulmane on décline les invitations et j'ai envie de passer un message en tant que média. Si vous souhaitez avoir plus de femmes musulmanes sur vos plateaux, et créez un cadre peut-être plus bienveillant et vous verrez qu'elles seront plus à même de répondre favorablement.
Vous et Élise, vous êtes d'accord avec ce que dit Attika? Et est-ce que vous pensez que quand vous disiez, quand j'allume les chaînes d'infos en continu, que je vois ces débats nauséabonds stigmatisant encore une fois les femmes musulmanes voilées, est-ce que vous vous dites que le combat est vain ou est-ce que vous vous dites, bon, il y a encore un peu d'espoir?
Je me dis que peut-être un jour, on arrêtera de demander aux femmes musulmanes pourquoi elles portent le voile et de devoir se justifier toujours par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand elles sont invitées, c'est pour ces questions-là. Donc j'espère qu'il y en aura aussi sur les plateaux qui seront là pour parler de ce qu'elles font, tout simplement. Après, les dernières actualités font que... je ne suis pas sûre que pour l'instant, on aille dans ce sens-là, mais espérons que ça évolue.
Ouais. Joël Kaimani.
C'est, comme je disais, c'est vraiment épuisant. Je ne vois pas forcément d'amélioration dans les médias traditionnels. Même on peut dire que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que la parole raciste s'est complètement libérée ces derniers mois, ces dernières années. Mais j'ai de l'espoir parce que je vois qu'il y a des gens en fait, qui se mobilisent, notamment en ligne et dans des associations, qu'elles soient contre l'islamophobie ou contre le racisme. Je vois que la nouvelle génération est très motivée et a vraiment ce besoin en fait, de revendiquer ses droits. Donc je pense que dans un petit moment, on pourra avoir des résultats positifs. En tout cas, j'ai bon espoir.
Samia, vous aussi, vous avez bon espoir?
Pas vraiment. Pardon, normalement, je suis très optimiste comme fille. Mais plus je découvre le reste du monde et plus je suis triste pour ce qui se passe dans mon pays. En fait, moi, ce que je trouve triste, c'est que sous prétexte de libérer les femmes, on les enferme davantage. On essaye de les effacer du paysage public. On leur interdit de travailler parce que clairement on ne peut pas trouver de travail en France quand on porte un foulard. Ils viennent de voter une loi pour interdire aux mamans d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires quand elles portent le voile. Donc déjà, ils n'ont pas suffisamment de mamans pour faire les accompagnements. Et en plus, quand les mamans qui portent le foulard veulent s'impliquer et entre guillemets s'intégrer, on les refuse. Et donc ça va crescendo. Et je trouve qu'en France, là-dessus, on est vraiment au Moyen-Âge. Moi, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis en Côte d'Ivoire en ce moment. Ici, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde cohabite sans aucun problème. Pourtant, ce n'est pas la majorité musulmane, mais on peut voir des grands panneaux dans la rue avec des femmes qui portent le voile, comme on peut voir des grands panneaux avec des pasteurs qui sont devenus des rockstars parce qu'ils sont encouragés dans leur paroisse. Et donc, tout le monde cohabite sans aucun problème. Il n'y a aucun souci. Et nous, le pays des Lumières, finalement, il y a eu court-circuit depuis longtemps.
Alors, cette question du voile, effectivement, elle déchire les féministes en France depuis des décennies. Atteinte à la liberté des femmes, incompatible avec le féminisme, asservissement religieux, patriarcal, sexiste, signal d'un fondamentalisme galopant pour d'autres. Pour les autres, c'est un emblème de liberté de disposer de son corps et de se vêtir comme bon nous semble. Vous, comment vous vivez ces déchirements? Et surtout, est-ce que vous vous dites « je suis féministe » et qu'est-ce que vous mettez derrière ces trois mots, Samia?
Pour moi, clairement, si une femme est libre réellement, elle doit être libre de pouvoir s'habiller comme elle en a envie. Moi, je suis pour la liberté de chacune de décider comment elle a envie de se vêtir, comment elle a envie de sortir. Je défendrai aussi bien une fille qui porte une mini-jupe qu'une fille qui porte un foulard, ou même un niqab si elle en a envie, parce que c'est sa façon de voir les choses et ça la regarde. Si elle, elle se sent bien et épanouie, c'est le plus important. J'ai eu un jour un plateau télé sur lequel j'étais invitée avec une ex-fémène. Et on a discuté dans les loges. Et en fait, on nous avait fait venir ensemble sur Canal pour qu'on se dispute. C'était juste après les attentats de Charlie Hebdo pour parler de la liberté d'expression. Et finalement, on a discuté et on s'est rendu compte que toutes les deux, on militait pour la même chose, la liberté de la femme d'être qui elle est et de faire ce qu'elle a envie. Et quand on est entrés et qu'ils ont ouvert les barrières, on s'est présentés main dans la main, ensemble. Donc, je trouvais que même si je ne suis pas pro-fémène, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire et de défendre ses convictions comme elle en a envie, de la même manière qu'elle a respecté qui moi je suis et ma manière de vivre et mes choix.
Élise,
C'est vrai que c'est, je dirais un peu pareil que Samia, c'est-à-dire que pour moi, être féministe, c'est se dire que c'est accorder tous les mêmes droits en fait à toutes les femmes. Et du coup, c'est pouvoir se dire que chacune a le droit de s'habiller comme elle veut. Mais donc pour moi, c'est pas du tout incompatible d'être féministe et musulmane. Et d'ailleurs, dans le livre, on a Shirin Ebadi qui était avocate et militante iranienne. Elle lui dit il faut pas interdire le voile comme il se passe en France, comme l'imposer comme ce qui se passe en Iran. Quoi. Tous les deux sont contre-productifs. En fait, c'est pas féministe.
Yoel Kaimani.
Plus jeune, en fait, je ne me considérais pas féministe parce qu'en fait, je ne me retrouvais pas du tout dans les discours. Il y avait beaucoup de discours, justement, en fait, de féministes qui ne supportaient pas le foulard, qui ne comprenaient pas les femmes musulmanes de manière générale, hein, avec ou sans foulard. Et c'est plus tard, en fait, quand j'ai découvert des féminismes intersectionnels où je me suis vraiment retrouvée dans les discours, en fait. Un féminisme qui prend en compte, en fait, la multiplicité de ces identités. Et en fait, qui laisse toutes les femmes, mais vraiment, genre, j'insiste, toutes les femmes être qui elles ont envie d'être sans aucune contrainte.
Alors Attika, vous le disiez, là, vous avez subi pas mal de campagnes de cyberharcèlement, et la LAB aussi, vous êtes régulièrement aussi accusée d'être proche des frères musulmans. Votre féminisme ne passe pas partout.
C'est super intéressant parce que je rejoins totalement Elka. J'ai un peu la même histoire qu'elle. J'ai longtemps refusé, étant plus jeune, de me qualifier de féministe, pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que les féministes, et notamment les féministes mainstream, niaient mes droits, et notamment ceux de ma mère, de mes grands-mères, à travers un discours qui n'était pas du tout productif. Et puis j'ai découvert, pareil, les féminismes, l'afroféminisme, le féminisme intersectionnel, le féminisme musulman, islamique, et c'est là où je me suis reconnue, et notamment... C'est là où, avec la LAB aussi, on a construit tout notre univers et on s'est dit que nous, demain, qu'est-ce que le féminisme pour nous, c'est finalement se dire qu'on peut vivre dans un monde dans lequel chaque femme peut s'accomplir sans peur d'être jugée, discriminée ou violentée, quelles que soient ses identités. Donc nous, c'est vraiment ça. Et puis, j'aimerais même aller un peu plus loin en disant que être féministe, c'est aussi croire que finalement, il n'y a pas un schéma unique que chaque femme est la plus à même de décider des conditions de son émancipation et que personne, pas même une autre femme, aussi bienveillante soit-elle, ne doit décider pour elle. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire que chaque femme doit être en mesure de choisir pour elle-même. Et sur la question du voile, je rejoins aussi Élise, de se voiler ou non d'ailleurs, peu importe, j'ai envie de dire, chaque femme doit être libre de choisir ce qui est le mieux pour elle en fait. Et rien d'autre, rien de plus.
Merci à toutes les quatre. On va se quitter maintenant en citant une grande militante féministe, intraitable contre les inégalités, les oppressions, une scientifique d'envergure internationale, une artiste, la Marocaine Fatima Mernissi, dont on ne peut que recommander un de ses livres phares, Rêve de femme, une enfance au harem. Elle dit en introduction de votre livre à toutes les deux, musulmanes du monde, « La dignité, c'est d'avoir un rêve fort qui vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. » Musulmane du monde, c'est donc dans toutes les bonnes librairies, au rayon jeunesse, à partir du 30 avril. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées? Ce sera en librairie à partir du 12 avril. Quant à vous, Samia, vous passez entre les gouttelettes du Covid-19, donc vous êtes en tournée en Afrique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, bientôt au Maroc, c'est ça?
Je suis une réfugiée économique ici.
Et on vous voit bientôt en France?
Ben, quand ça réouvrira un jour, Inch'Allah, comme on dit.
En attendant, beaucoup de vos sketchs, voire même des spectacles complets, se trouvent sur YouTube. À très bientôt sur Merci. Mediapart pour un nouveau numéro de la Révolution féministe.